scommettetemi alle strette, ho quanto fiato in gola, vi urlerò, non c'è paura, ma che politica, che cultura, sono solo canzonette, non mettetemi alle strette, sono solo canzonette.
Sono solo canzonette.
Une émission sur la chanson italienne présentée par l'association Inis Italie-Nord-Isère
par Jean Guichard et Alain Pongan.
Bonjour.
Bonjour.
On peut dire bonjour maintenant.
Alain.
Le printemps se pointe, les journées sont plus longues.
Laurent.
Bonjour Laurent.
Et bonjour à la canzonetta sur laquelle on continue.
Continue. La dernière fois, on avait parlé du chant épico-lyrique. On va continuer.
On va continuer et puis on va reprendre ce thème qu'on a évoqué la dernière fois de la Cecilia.
Ah, la plus belle des filles qui venait de Lyon, c'est ça?
Oui, voilà.
Dans la chanson.
Voilà. Et il y a une version romaine qui est chantée par le groupe La Piazza. Et la chanteuse est Sara Modigliani. Et cette version est intéressante parce qu'elle montre d'une part que la chanson a été diffusée dans toute l'Italie, en fait. Et elle est un petit peu différente. La mélodie est différente de ce qu'on a entendu la dernière fois. Et puis, c'est intéressant parce que c'est la reprise d'une histoire qui s'est passée récemment.
Et qui est un parallèle avec la chanson d'origine, disons.
Voilà.
Même si la chanson d'origine, on l'avait mentionné, a eu des versions très, très différentes d'une région à l'autre.
Bien sûr. Et alors là, c'est l'histoire d'une jeune femme à la fin de la Seconde Guerre mondiale, une certaine Clélia, dont le mari avait été arrêté pour résistance et qui était enfermé dans les prisons de Via Tasso. Et alors, elle avait pris contact et elle avait accepté de passer une nuit avec un commissaire qui était un collaborateur des Allemands. C'était le moment de la résistance à Rome, l'épisode de Via Rasella, etc. Et le commissaire lui avait promis que son mari...
Comme le capitaine de la...
Voilà, absolument. C'était un commissaire collaborateur en 1944. Et puis elle s'aperçoit, elle apprend le lendemain que son mari a été exécuté. Alors elle attend, et au moment de l'arrivée des Alliés, au moment où le commissaire donc va s'enfuir de Rome pour échapper aux représailles, elle le tue.
La vengeance.
Donc c'est une conclusion, l'épilogue est différent de ce qu'on a entendu. Elle le tue, et puis selon la tradition, elle prend sa quenouille et son fuseau, et elle se met à filer, mais c'est à la prison de San Michele, c'est-à-dire la prison pour femmes de
actuelle.
Rome. Donc on va écouter cette version de la Cecilia.
Che una piace pure a dormi, non abbaga l'onore, sarvallo tuo marì. Bravo sor capitano, m'avete ben tradì, a me tolto l'onore e la vita mio marì. Zitta Cecilia, zitta, non di male de me, principi e cavalieri vorranno bene a te. Io non voglio principi e ne manco cavalier, voglio il marito mio che mi voleva bene. Zitta Cecilia, zitta, non di male de me, che le carcere scure te le farò vedere, sì sì le vo vedere.
Intéressant cette inspiration d'une ancienne chanson traditionnelle. C'est vrai que toutes les versions ne se finissaient pas par la mort du commissaire et du capitaine.
Quoi, non, non.
Puisque
elle refuse de l'épouser dans la plupart des versions.
Oui, ou alors elle se suicide même dans certaines versions.
Oui, il y a des versions où elle se suicide.
Des versions où sa rage est contenue, d'autres où... Et il y a une version de Viterbo.
Oui.
Où là, elle tuait le capitaine.
Il y en a quelques-unes, oui.
Et Viterbe, on n'est pas si éloigné que ça de Rome, en fait.
Et puis, il y a sans doute le contexte de la fin de la guerre, les conflits internes entre fascistes, collaborateurs des Allemands, et puis antifascistes, qui fait adopter cette version. Mais c'est intéressant de voir que, dans un contexte historique complètement différent, ces chansons continuent à vivre et à être le moyen d'expression d'une réalité de vie quotidienne terrible et dont on imagine bien qu'elle n'est pas inexistante aujourd'hui dans d'autres contextes. Et ce capitaine est, ma foi, assez symbolique de toutes les armées d'occupation, que ce soit en France, en Italie, en Afrique ou en Asie, probablement. Alors voilà, continuation d'utilisation de ces chansons épiques. Et puis, il y en a beaucoup. Nigra, dont on parlait la dernière fois, on a publié énormément. Et parmi celles qui ont été les plus diffusées, il y en a une qui est intéressante, ça s'appelle « Il fiol del signor Conte », le fils de monsieur le comte, ou plus simplement « L'héroïne ». Alors c'est une histoire étrange. Un étranger convainc une jeune fille de le suivre. Il veut l'épouser. Alors dans la version bergamasque qu'on entendra, c'est une Anglaise. Et il l'emmène. Alors, il la demande le soir, il l'épouse la nuit et il l'emmène le lendemain matin. Et
efficace.
Oui, et au bout de quelques kilomètres, quelques milles, il s'arrête et elles n'ont pas prononcé un mot. Alors, dans certaines chansons, c'est lui qui ne parle pas. Dans d'autres, c'est elle qui n'a rien dit. Et dans cette version, il lui demande pourquoi elle ne dit rien. Alors, elle répond que c'est parce qu'elle sait qu'elle ne reverra jamais son père et sa mère. Alors, il s'arrête sous un arbre. Et puis, elle s'assoit sous l'arbre. Et elle s'aperçoit que dans l'arbre, alors selon les versions, ou bien il y a l'épée sanglante du chevalier qui l'a emmené, qui pend avec sa cuirasse, ou bien il y a des cadavres de belles jeunes femmes qui sont pendues. Et elle comprend qu'elle est la suivante. Alors on a une référence assez claire à l'histoire de Barbe Bleue,
oui, oui.
Qui prenait des jeunes femmes et puis
qui
les enlevait et qui les tuait. Alors elle comprend qu'elle va être tuée. Il lui demande de se déshabiller, dans certaines versions. Et elle lui dit, alors il faut vous retourner parce que je ne peux pas me déshabiller comme ça. Et elle lui demande de se mettre un bandeau sur les yeux et de poser son épée par terre, parce que il faut pas qu'il la voie et il faut pas qu'il ait son épée à la main. Et puis, pendant qu'il se retourne...
Elle part, je suppose.
Hein ?
Elle part, non ?
Non, elle prend l'épée, elle lui coupe
la tête.
Elle lui coupe la tête. Après quoi, elle le noie et elle rentre chez elle. Alors, il y a là une référence à un thème qui était très souvent peint par les grands peintres, c'est celui de Judith et Holoferne. Judith qui coupe la tête à Holoferne et qui la ramène chez elle ou qui la fait ramener par sa servante. Donc elle rentre chez elle, puis là on a des quantités de versions différentes. Elle le remet à son mari, parce que dans certaines versions elle était mariée, ou dans d'autres elle le remet à son père, et qui repart avec elle pour enterrer le cadavre du fils du comte. Alors il y a évidemment là derrière énormément de choses, ça a fait beaucoup réfléchir tous les interprètes, parce qu'on a des versions de cette chanson pratiquement dans l'Europe entière. On a beaucoup de versions italiennes, Nigre en rapporte un certain nombre, et puis on a des versions françaises, dont une version lyonnaise d'ailleurs, incomplète, qui a été publiée par Champfleury. Gérard de Nerval en avait publié une. Et puis on a des versions espagnoles, des versions portugaises, hongroises, magyares et allemandes, scandinaves, anglo-saxonnes, oui, hollandaises, flamandes, etc. C'est apparemment un des chants qui a été les plus répandus dans l'Europe entière et qui a reçu des interprétations sociologiques, des représentations mythologique, qui aurait un mythe solaire qui serait évoqué, solaire et lunaire, et puis des interprétations psychanalytiques, des problèmes d'inceste, de refoulement de l'inceste, etc. C'est vraiment une des chansons qui a le plus intéressé les interprètes, donc de disciplines scientifiques très différentes. Alors celle-ci est une version bergamasque. Il y en avait d'autres, mais des versions incomplètes où elle ne le tuait pas. Donc,
c'est intéressant.
C'était beaucoup moins intéressant. Celle-ci est une version collective. Le fils de Monsieur le Comte voulait se marier et il veut épouser une Anglaise.
Elle était fille d'un cavalier.
Elle était fille d'un chevalier.
Chevalier plutôt.
Oui, le soir, il la demande. La nuit, il l'épouse. Et le lendemain matin, il part, dans cette version, il part
la
vers
France.
La France. Voilà.
On a souvent la France, en fait, dans ces chansons. On parlait tout à l'heure des les trois filles qui venaient de Lyon. Je ne sais pas si le nom est mentionné comme ça.
Oui.
Il y a Toulouse, il y a pas mal de...
Mais on le disait la dernière fois, il y avait des échanges extraordinaires entre... Et puis, quand on regarde l'histoire du Piémont en particulier, qui était donc possédé par la famille de Savoie, c'est-à-dire des gens qui venaient de l'ouest des Alpes, on s'aperçoit que les passages des Alpes sont extraordinairement courants, quoi. Mm-hmm. Et ce, depuis l'Antiquité, sous les Romains, le passage d'Hannibal des Alpes par Hannibal est commenté pendant tout le Moyen-Âge. Et ce qui fait la fortune de la maison de Savoie, c'est le fait qu'il contrôle le Mont-Cenis, le Mont-Genèvre, et puis le Petit et le Grand Saint-Bernard, parce qu'ils ont très peu de territoire, finalement. En Savoie, des territoires pas très riches. Donc, on sous-estime sûrement le type
d'échanges, de passages,
de voyages que faisaient ces gens qui n'avaient comme moyen de transport que leurs pieds, les pieds de leurs chevaux et de leurs mules. Et avec ça, alors ils mettaient des mois pour faire un trajet, mais ils le faisaient tranquillement. Et donc la France, en réalité, c'est très proche de l'Italie du Nord, surtout. Et puis donc, dans le texte, elle pousse des soupirs, alors elle lui demande des explications, elle lui dit que c'est rien, mais qu'elle ne reverra plus, elle sait qu'elle ne reverra plus son père et sa mère. Et puis, il prépare son couteau et son épée, et puis...
Il avait déjà... tué 32.
Oui, alors c'est dans les versions, il y en a 6,
nombre différent,
8, 12. Mm. Dans certaines versions, il y en a 12, c'est ce qui a fait penser à un mythe solaire. Voilà, la mort du soleil en hiver, et puis l'été qui est la reprise de la vie, et une sorte de résurrection. Et là, elle prend l'épée et elle la lui plante dans le cœur. Et à casa ne andò, elle s'en revient.
À la maison.
À la maison.
Yeah.
Voilà, on a parlé depuis le début de l'émission de la première chanson qu'on a entendue, faisait référence à une chanson traditionnelle tchétchi, il y a resituée à une époque différente. Et puis on a parlé aussi des passages entre la France et l'Italie. Alors là, on va écouter une chanson, Filalalana, qui a une histoire un peu particulière. Lorsqu'elle est parue en 1965, donc Fabrizio De André, qui la chante en italien, quand je dis la chante en italien, c'est parce que sur son disque à l'époque, puisqu'on c'était des 45 tours, il était indiqué que cette chanson était inspirée d'une chanson française du 15e siècle. C'était mentionné en toutes lettres sur le disque de Fabrizio De André, et que c'en était donc une version italienne. En fait, plusieurs recherches au fil des années et autres. Et sans que jamais, d'ailleurs, Fabrizio De André ne soit revenu sur cette mention, parce qu'il l'a chanté pratiquement même les dernières années de sa vie de chanteur, il l'a chanté encore, mais il n'est jamais revenu sur cette appellation de chanson inspirée d'une chanson française du XVe siècle. Alors il se trouve que sa chanson « Filalalana » est bien une interprétation italienne, non pas une traduction, mais une interprétation italienne, d'une chanson française, mais qui n'est pas du tout du XVe siècle, qui est de 1949, qui s'appelait « File la laine », tout simplement, hein, et qui était écrite par Robert Marcy, mais que chantait Jacques Douai, qui était assez connu il y a peut-être une vingtaine d'années, on va dire.
Oui, largement.
Alors c'est intéressant. Alors c'est intéressant à divers titres. Déjà au niveau du texte, parce que dans le texte français de ce texte de 1949, qui lui aussi en fait une chanson moyenâgeuse, dans la chanson commence comme ça en français, file la laine. Dans la chanson de nos pères, monsieur de Malberoux est mort. Si c'était un pauvre air, on n'en dirait rien encore. Mais la dame à sa fenêtre, pleurant son triste sort, dans 1000 ans, dans 2000 ans peut-être, se désolera encore. Donc, on est toujours dans ce type de chant, en fait. Mais en fait, c'est écrit en toutes lettres en 1949. Et la reprise en 65 et l'adaptation de Fabrizio De André. Alors lui, on ne parle plus de M. de Malmont, mais on parle de la... Donc à la guerre de Valois, M. de Vly est mort. On ne sait pas qui est, hein, ce M. de Vly est mort. S'il a été un héros, on ne le sait pas, on n'en est pas encore sûr. Mais elle est toujours pareille, la dame abandonnée, se lamentant sur sa mort pendant des milliers d'années et encore peut-être davantage, pleurera son triste sort. Et donc ce parallèle est intéressant, l'adaptation est intéressante. Alors qu'est-ce qu'on va dire ? Est-ce que Fabrizio De André a fait un faux ? Je ne pense pas qu'on puisse dire ça parce que je pense qu'il était marqué par son inspiration déjà de la chanson française en général, puis c'était un admirateur notamment de Brassens. Et puis il allait dans cette veine de chants épico-lyriques. Et comme par hasard, entre France et Italie, toujours, c'est intéressant. Donc, on trouve que c'est intéressant de l'écouter. Alors, en plus, la musique est complètement adaptée à ce type de chant. On va l'entendre. Donc, Fila la lana, par Fabrizio De André.
Nella guerra di Valois il signor d'Ivly è morto, se sia stato un prode eroe non si sa, non è ancor certo, ma la dama abbandonata lamentando la sua morte per mill'anni e forse ancora piangerà la triste sorte. Fila la lana, fila i tuoi giorni, illuditi ancora che lui ritorni, libero di dolci sogni d'amore, apri le pagine sul suo dolore. Son tornati a cento e a mille i guerrieri di Valois, son tornati alle famiglie, ai palazzi, alle città, ma la dama abbandonata non ritroverà il suo amore e il gran ceppo nel camino non varrà a scaldarle il cuore. Fila la lana, fila i tuoi giorni, illuditi ancora che lui ritorni, libero di dolci sogni d'amore, apri le pagine al suo dolore. Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura, al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta. Fila la lana, fila i tuoi giorni, illuditi ancora che lui ritorni, libero di dolci sogni d'amore, chiudi le pagine sul suo dolore.
Voilà, le Pro Chevalier.
Oui, mais c'est intéressant parce que bon, je ne sais pas si De André a effectivement dit que c'était du 15e siècle,
c'est
comme
ce que
ça.
Sa maison de disque a...
Oui, mais...
Lui ne l'a pas dit lui-même, peut-être.
C'est... Oui. Est-ce qu'il a eu entre les mains un écho d'une chanson du 15e qui traitait d'un thème convergent ? C'est tout à fait conforme à ce que, au fonctionnement de la tradition orale.
Absolument.
Parce que on avait un texte, quelqu'un écrivait un texte, et puis souvent, il s'est arrivé plusieurs fois, c'est arrivé à Bertelli par exemple, qui dit qu'une fois il a entendu une vieille femme chanter une chanson. Oh, il lui a dit, elle est belle cette chanson, d'où est-ce qu'elle sort ? Et elle lui a dit, oh, c'est un chanteur vénitien, un certain Gualtiero Bertelli, qui me l'a chanté il y a 20 ans. Et c'était un petit peu différent, il y avait quelques différences de mélodie, et il n'avait pas reconnu sa chanson.
Sa propre chanson.
Ouais. Et c'est comme ça que fonctionnait la tradition orale, en fait. Il y avait des choses qui intervenaient, il y avait des oublis, il y avait des adjonctions... Et en fait, De André est tout à fait dans la ligne de ce qui aurait pu être une chanson.
Absolument.
Du 15e siècle.
En plus, l'accompagnement musical.
La musique est tout à fait.
Alors, la chanson de Marcy, elle avait été traduite en italien, mais traduite alors par Riccardo Venturi, mais sans interprétation, sans touche personnelle, disons que c'était de la traduction pure. Hein. Uh-huh. Alors que la chanson de De André, intéressant, c'est que c'est une admettons qu'il est adapté, d'où est l'origine, on ne sait pas trop. Parce que, bon, après tout, Robert Marcy, lui aussi, s'est peut-être inspiré de
quelque
chose qu'il a lu.
Sans le dire, d'ailleurs, forcément.
Mais l'intérêt de celle de Deandré, c'est que c'est un nouveau texte, on va dire.
Voilà. Et tout à fait. Tout à fait. Et puis, bon, il y a la référence au Valois. Voilà, toute une série d'expériences, de références à l'histoire de France, quoi. Qui était très, très populaire, surtout dans une région comme Gênes.
D'où était originaire Fabrizio De André.
Oui, oui, De André était génois. Alors, on va retrouver ça dans une autre série de chansons. C'est celle qui tourne autour de Bella Ciao. On connaît Bella Ciao, tout le monde la chante, bien ou mal. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est d'où ça sort. Mm-hmm. Et il y a déjà une première chanson qui a inspiré Bella Ciao. C'est une vieille chanson qui s'appelle Fior Tomba, fleur de tombe. Et on sait de façon certaine que c'est une chanson qui, sous un autre titre, on l'appelait Rosina, Rosettina, est une chanson normande, puisqu'on l'a trouvée dans un manuscrit du XVe siècle de Bayeux. Et on a une version dont la musique a été écrite par Josquin des Prés. Et donc là, on a les traces anciennes. Ça se trouve dans sa couronne et fleurs des chansons à trois, qui a été imprimée à Venise, d'ailleurs, par Antonio dell'Abbate, en 1536. Et c'est l'histoire de la belle au pied de la tour. Alors, elle pleure et elle soupire, et elle mène grande douleur. Son père lui demande, « Ma fille, qu'avez-vous ? Voulez-vous mari ? Voulez-vous un mari ? Je veux un mari, je ne veux pas de seigneur, je veux mon ami qui pourrit dans la tour. » Son ami est enfermé dans la tour, et il est condamné à mort. Par Dieu, ma belle-fille, à cela, il ne faut pas, car il sera pendu demain au point du jour. Mon père, si on le pend, enterrez-moi dessous. Et il y a donc une fleur qui va pousser sur la tombe. Alors, on a énormément de versions française et autres. C'est une chanson qui a été très, très répandue. Et Roberto Balocco, qui est un des grands chanteurs de la tradition turinoise, la reprend en dialecte turinois, où la jeune fille dit « Je ne veux... » Son père lui promet un fils d'empereur. Elle dit « Je veux ni fils d'empereur, ni fils de roi. Je veux mon ami. » Alors son père lui dit « Non, mais c'est pas sérieux. Il n'est pas digne de toi. Il va être pendu. » Et c'est là qu'elle dit « Eh bien, je serai enterré, qu'on me fasse une tombe. » Et je serai enterré dans les bras de mon amour, et tous les gens qui passent verront la rose qui a poussé sur la tombe, et tous les gens diront, elle est morte. La belle, elle est morte d'amour. Alors, c'est intéressant parce que on va retrouver ce thème qui est un thème donc de la résurrection. On va le retrouver dans toute la littérature, on va le retrouver dans la nouvelle de Boccace sur le basilic qui pousse, etc. Et on va le retrouver finalement dans Bella Ciao, mais adapté à une autre réalité, non pas à l'amour d'une femme, mais l'amour de la justice et de la patrie. Alors on va déjà écouter cette Fior Tomba par Roberto Balocco.
Daret culebus caie na bella fia ie e soppare sua mare alla veru maride a velu dei lamprinsi fiel d'imperador
vive une naine, né reine et princi, mi vive une naine, impérador. Bella, elle est morta per amour. A diran, l'est morte la bella, elle est morta per amour.
Roberto Balocco.
Balocco. Qui est un grand bonhomme de Turin.
On va en parler après, on écoutera Bella Ciao. On disait que l'inspiration de Bella Ciao, entre autres, était aussi une comptine.
Oui. Alors, oui, cette chanson, cette histoire est intéressante parce que c'est vraiment le témoignage d'une époque où les filles, en particulier les filles des gens riches ou des nobles, n'étaient rien d'autre que des marchandises à marier. On se disait, tiens, j'ai tant de filles, alors ça serait bien que je marie celle-là à la fille du comte voisin, et puis après on pourra fusionner nos domaines, ça fera un domaine plus grand, ou bien pour une raison d'alliance politique, ça serait bien que je la marie. Alors on a des histoires où les filles de nobles sont successivement fiancées à deux ou trois personnes. On ne leur demandait pas leur avis, les pauvres. Et c'est très significatif, on veut la marier à un fils d'empereur, de roi, elle dit non, je veux ce garçon qui est dans la prison, et s'il meurt, je mourrai.
C'est vrai que c'est une forme de résistance.
Avec lui, oui, tout à fait. Et donc, je pense que ces chansons devaient, en réalité, être senties très profondément par les gens. Bon, maintenant, ça se présente plus, au moins chez nous, tout à fait comme ça. Mais c'était une réalité quotidienne très significative de la réelle soumission des jeunes filles à la volonté de leurs parents et aux besoins politiques ou d'alliance de leurs parents. Oui, alors tu disais, il y a une autre source de Bella Ciao, c'est une comptine. Alors ça, c'est une autre histoire qui est très ancienne aussi. Nigra raconte beaucoup de choses sur ses origines et beaucoup d'autres s'y sont intéressés. Ça a des titres différents. Mais c'est entre autres une comptine dont on écoutera un morceau qui raconte l'histoire de la jeune fille qui va à la source pour chercher de l'eau. on n'avait pas l'eau à la maison, donc sa grand-mère l'envoie chercher de l'eau à la source. Et à la source, elle rencontre, elle est jolie comme tout, elle rencontre un chevalier.
L'eau de la Clairefontaine.
Voilà, c'est l'eau de la Clairefontaine aussi. Et le chevalier lui dit, écoute, si tu veux passer une nuit avec moi, je te donnerai 100 écus. Alors, ça peut être une chanson répétitive, parce qu'on passe à 200 écus, à 300 écus, etc. Mmh. Et alors, comme c'est une jeune fille prudente, elle dit, bon, ben, je vais demander à ma maman. Et donc, elle remplit son seau d'eau. Dans un premier temps, l'eau était trouble, d'ailleurs. On ne sait pas pourquoi. Et sa maman lui dit, accepte. Et puis, tu verras, on lui fera boire une boisson droguée. Comme ça, il dormira toute la nuit, on aura l'argent et ton honneur sera sauf. Alors, c'est ce qui se passe. Ils font boire une boisson somnifère au jeune homme qui dort paisiblement toute la nuit. Et le lendemain matin, on le trouve, il est en train de... Il paye ses 100 écus et puis il pleure. Alors la mère lui dit, mais pourquoi tu pleures? Tu regrettes ton argent? Il dit, non, je regrette la nuit que j'ai passée en dormant. Et il propose une seconde nuit. Mais alors là, prudente, et on a beaucoup de versions différentes, la très amusante, la mère et la jeune fille disent non, c'est fini maintenant, on en reste là. Alors, on a une comptine où on ne raconte pas l'histoire du chevalier, parce que pour les enfants, ça ne les intéresse pas, mais c'était une comptine intéressante parce que c'était lié à un jeu de main. Alors, il y avait les deux enfants, l'un contre l'autre,
qui
tapaient dans leurs mains.
Donc, il y a un rythme qui se...
Voilà, selon le rythme. Mmh. Et c'était pour leur apprendre à bien distinguer la droite de la gauche. Alors, ils tapaient les deux mains contre les deux mains, puis la main droite de l'un contre la gauche de l'autre, la main gauche de l'un contre la droite de l'autre, et ainsi de suite. Il y avait tout un jeu. Et là, c'est le titre, c'est « Ma grand-mère, elle est un peu vieille ». Alors, elle l'envoie à la fontaine pour prendre de l'eau pour le repas, simplement. Mais dans la comptine enfantine, on élude la proposition du chevalier qui apparaît dans les chansons qui ont pour titre « La boisson empoisonnée », etc. On va l'écouter. Voilà, voilà. On peut continuer
ça. Puis,
je te donnerai 300 écus, je te donnerai 400 écus, etc. C'est une chanson qui est encore utilisée dans les écoles pour enseigner la liberté de mouvement.
Et puis la gestuelle, oui, bien sûr.
Dans la gestuelle des enfants.
Alors, on arrive donc
à Bella Ciao.
À Bella Ciao. Alors, Je crois que c'est tranché maintenant entre la chanson des Rizières et la chanson des Partisans, puisque ça a fait l'objet de...
Alors, mais j'entends toujours...
On entend toujours, oui.
J'entends toujours dire. La version qui a été dominante jusqu'en 1964, selon laquelle la version des Partisans...
Était une adaptation de
cette... Était une adaptation à la lutte des Partisans, une adaptation d'une vieille chanson des Mondines, dont Giovanna Daffini, dont on a déjà parlé, cette grande chanteuse populaire, avait toujours dit qu'elle la chantait dans les années 30, c'est-à-dire à l'époque où elle-même était Mondine, elle allait repiquer le riz dans la plaine du Pô. Et puis, c'est tellement passé dans la tradition qu'il y a encore 2-3 mois, j'ai entendu quelqu'un dire ça, dire voilà.
Lors d'un spectacle.
Oui, voilà. Mmh. Et puis, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Ça traîne encore dans les esprits.
On donnait même des dates précises.
Absolument.
L'édition de la chanson, enfin des structures de la chanson.
Oui, parce que Giovanna Daffini était tellement affirmative. Elle avait été Mondine, donc c'était son expérience, elle savait. Et puis, lors d'un congrès de Mondine en 1964, il y a Vittorio Carpi, qui était le mari de Giovanna Daffini, son mari, son violoniste, etc., qui a dit, écoutez, il faut arrêter. Bon, on voulait montrer que la résistance antifasciste, c'était le prolongement de la lutte populaire. C'était le prolongement de la tradition des chansons populaires. Mais il faut qu'on dise la vérité maintenant. C'est moi qui ai écrit le texte des Mondines pour un congrès de Mondines où il y avait un concours et j'ai écrit la version des Mondines dans les années 50.
C'est-à-dire après celle des Partisans.
Donc bien après celle des Partisans pour Giovanna Daffini. Alors Giovanna Daffini était un peu embêtée parce que c'était contradictoire avec tout ce qu'elle avait toujours raconté. Et puis elle a dit oui, bon ben c'est possible parce que j'ai chanté tellement de chansons que j'ai pu confondre et puis etc.
Mais on va écouter les deux versions à la suite là. Mais même sur certains albums qui sont en Italie ou en France, de présentation de ces deux chansons, on le notait comme étant l'une, comme étant celle des Rizières qui précédait celle des Partisans, ce qui est étonnant.
Oui, alors en fait, on dit aussi que c'était la chanson des Partisans, mais jamais les Partisans n'ont chanté
cette
chanson. Les Partisans disaient, non mais vous vous rendez compte, en particulier quand on était dans les villes côte à côte avec les soldats fascistes ou les SS, qu'on allait chanter Bella Ciao. Il y avait uniquement quelques partisans qui étaient cachés dans la montagne, qui effectivement pouvaient chanter. Et puis, de toute façon, la chanson préférée des Partisans, mais on l'écoutera une prochaine fois, ça n'était pas Bella Ciao, c'était Fischia il Vento.
Eh oui.
Alors, Fischia il Vento, c'était une chanson très aimée des Partisans. C'était écrit sur l'air d'une chanson soviétique de 1938, Katyusha. Mais Katyusha et le texte même de Fischia il Vento n'étaient pas très politiquement corrects, il était très communiste. Et Fischia il Vento a été un peu oublié, siffle le vent, souffle la tempête, souliers cassés, il faut pourtant aller conquérir le rouge printemps où surgit le soleil de l'avenir. C'était très marqué dans la lettre, c'était une chanson communiste. Alors, Bella Ciao était apparue en particulier au Parti Socialiste et puis à la Démocratie Chrétienne et aussi aux Forces Armées d'ailleurs, était apparue comme beaucoup plus acceptable. Et on va répandre l'idée que c'était la grande chanson des Partisans, mais des critiques comme Bermani, comme Leidi ont rétabli la vérité là-dessus. On sait que c'était pas comme ça. Et puis on va les écouter, et puis on dira d'autres choses qu'on sait maintenant sur l'origine, parce qu'on a des sources bien plus anciennes que même la version des Partisans et qui viennent de très loin.
Donc on va entendre successivement la chanson des Mondines et celle qu'on va appeler le chant de la résistance.
Alla mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 alla mattina, appena alzata, in risaia mi tocca andare. E fra gli insetti zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti e le zanzare, un duro lavoro mi tocca fa', oh mamma mia, che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani, io ti invoco ogni
stamattina, mi sono alzato,
io ti invoco ogni doma,
partigiano portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano portami via, che mi sento di morire, e se muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, e le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno mi diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà, e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà, morto per la libertà.
Alors la chose quand même qui est certaine, c'est que c'est devenu vraiment la deuxième, un champ de résistance dans toutes les luttes, même actuelles.
Bien sûr.
Et dans tous les, quasi dans tous les pays du monde.
Puis ça a été popularisé, on écoutera la prochaine fois d'autres versions. Ça a été popularisé par Yves Montand, ça est en
Paris
France.
Montand,
Et puis on écoutera beaucoup d'autres interprétations. Il continue à y avoir toujours de nouvelles interprétations. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que cette chanson qui est donc récente, puisqu'elle date des années 40, on s'aperçoit qu'elle a, outre les antécédents dont on parlait
tout à l'heure,
c'est une référence à la résurrection, c'est une référence qu'on trouve dans les fêtes, on mettait du blé dans des tombes qu'on a retrouvées des millénaires après, dans des tombes égyptiennes, par exemple. Et puis, récemment, quelqu'un a entendu, par hasard, la musique de Bella Ciao dans un disque yiddish, un disque de musique hébraïque qui venait de New York et qui était de 1919. Et donc, ça a relancé la recherche, c'est tout récent, c'est en 2008, ça a relancé la recherche comment un disque de musique populaire hébraïque né en Europe de l'Est, qui venait d'Odessa, qui était passé aux États-Unis, alors ça on comprend bien parce qu'il y avait des phénomènes d'émigration, a pu revenir en Italie 25 ans après et devenir cette chanson populaire qui était Bella Ciao. Alors c'est intéressant parce qu'il y a probablement une source ancienne, outre ces sources indirectes dont on parlait tout à l'heure, il y a probablement une source ancienne de cette musique de Bella Ciao et de cette tradition de la fleur qui pousse sur la tombe, qui est une très belle image de résurrection, que ce soit une tombe d'amour ou que ce soit la tombe d'un partisan qui est mort
pour que son pays renaisse, la
liberté, pour que la justice réapparaisse. Chanson d'une grande actualité aujourd'hui,
de plus en plus, par rapport
à la situation du monde dans lequel on vit. On aurait bien besoin d'espérer que les fleurs vont pousser sur les tombes de ceux qui luttent. En espérant qu'il y a beaucoup de gens qui luttent et qui vont lutter.
C'est vrai qu'on a bien besoin de renaissance, on va dire.
Pour la liberté et la justice, absolument. Donc voilà d'autres aspects de cette chanson épico-lyrique. On en dira deux mots
la prochaine fois.
Et puis on continuera dans notre histoire de la chanson italienne, qui n'a pas que la chanson populaire, heureusement ou malheureusement, si on croit si on a écouté le récent festival de Sanremo, on peut voir combien l'argent et les médias ont envahi et détruit la qualité de la chanson.
Mais la chanson et le sport sont devenus différents, on va dire.
Oui.
Mais heureusement, il y a encore de belles créations.
Il y a encore de belles créations. De chansons populaires, entre autres. Voilà, nous étions sur Couleur FM 97.1.
Non, non, cosa seria. E così è, se vi pare. Ma lasciatemi sfogare. Non mettetemi alle strette. Ho quanto fiato in gola. Vi urlerò, non c'è paura. Sono solo canzonette, non mettetemi alle strette, sono solo canzonette.
Sono solo canzonette.
Une émission sur la chanson italienne présentée par l'association Inis Italie Nord-Isère
par Jean Guichard et Alain Pongan.